Montaigne, Essai, livre deuxième, chapitre 12, L'apologie de Raymond de Sebonde. C'est à la vérité une très utile et grande partie que la science. Ceux qui la méprisent témoignent assez leur bêtise. Mais je n'estime pas pourtant sa valeur jusqu'à cette mesure extrême qu'aucun lui attribue. Comme Irilius, le philosophe, qui logeait en elle le souverain bien, étonnait qu'il fût en elle de nous rendre sages et contents. Ce que je ne crois pas, ni ce que d'autres ont dit, que la science est mère de toute vertu et que tout vice est produit par l'ignorance. Si cela est vrai, il est sujet à une longue interprétation. Ma maison a été dès longtemps ouverte aux gens de savoir et en est fort connue, car mon père, qui l'a commandé 50 ans et plus, est chauffé de cette ardeur nouvelle, de quoi le roi François Ier embrassa les lettres et les mit en crédit, rechercha avec grand soin et dépense l'acquaintance des hommes doctes, les recevant chez lui comme personnes saintes et ayant quelque particulière inspiration de sagesse divine, recueillant leurs sentences et leurs discours comme des oracles, et avec d'autant plus de révérence et de religion qu'il avait moins de loi d'en juger, car il n'avait aucune connaissance des lettres, non plus que ses prédécesseurs. Moi, je les aime bien, mais je ne les adore pas. Entre autres, Pierre Bunel, homme de grande réputation de savoir en son temps, ayant arrêté quelques jours à Montaigne en la compagnie de mon père, avec d'autres hommes de sa sorte, lui fit présent au délogé d'un livre qui s'intitule « Theologia Naturalis, sive liber creaturarum magistri reimondi de sebonde ». Et parce que la langue italienne et espagnole était familière à mon père, et que ce livre est bâti d'un espagnol baragouiné en terminaison latine, il espérait qu'avec lui un peu d'aide, il en pourrait faire son profit, et le lui recommanda comme livre très utile et propre à la saison, en laquelle il le lui donna. Ce fut lors que les nouveautés de Luther commençaient d'entrer en crédit et ébranler en beaucoup de lieux notre ancienne créance. En quoi il avait un très bon avis, prévoyant bien par discours de raison que ce commencement de maladie déclinerait aisément en un exécrable athéisme. Car le vulgaire, n'ayant pas la faculté de juger des choses par elles-mêmes, se laissant emporter à la fortune et aux apparences, après qu'on lui a mis en main la hardiesse de mépriser et contrerôler les opinions qu'il avait eues en extrême révérence, comme sont celles où il va de son salut, et qu'on a mis aucun article de sa religion en doute et à la balance, il jette tantôt après aimant en pareille incertitude de toutes les autres pièces de sa créance qui n'avaient pas chez lui été ébranlées. Et il secoue comme un joug tyrannique toutes les impressions qu'il avait reçues par l'autorité des lois ou révérence de l'ancien usage. Nam cupide conculta tur nimis ante metutum. Entreprenant dès lors en avant de ne recevoir rien à quoi il n'ait interposé son décret et prêté particulier consentement. Or, quelques jours avant sa mort, mon père ayant de fortune rencontré ce livre sous un tas d'autres papiers abandonnés, me commanda de le lui mettre en français. Il fait bon traduire les auteurs comme celui-là où il n'y a guère que la matière à représenter. Mais ceux qui ont donné beaucoup à la grâce et à l'élégance du langage, ils sont dangereux à entreprendre, nommément pour les rapporter à un idiome plus faible. C'était une occupation bien étrange et nouvelle pour moi, mais étant de fortune pour lors de loisir, et ne pouvant rien refuser au commandement du meilleur père qui fut oncle, j'en vins à bout, comme je pus. À quoi il prit un singulier plaisir et donna charge qu'on le fît imprimer, ce qui fut exécuté après sa mort. Je trouvais belles les imaginations de cet auteur, la contexture de son ouvrage bien suivie et son dessin plein de piété. Parce que beaucoup de gens s'amusent à le lire, et notamment les dames à qui nous devons plus de service, je me suis souvent trouvé à même de les secourir pour décharger leur livre de deux principales objections qu'on lui fait. Sa fin est hardie et courageuse, car il entreprend, par raison humaine et naturelle, établir et vérifier contre les athéistes tous les articles de la religion chrétienne. En quoi, à dire la vérité, je le trouve si ferme et si heureux que je ne pense point qu'il soit possible de mieux faire en cet argument-là, et crois que nul ne l'a égalé. Cet ouvrage, me semblant trop riche et trop beau pour un auteur duquel le nom soit si peu connu et duquel tout ce que nous savons, c'est qu'il était espagnol, faisant profession de médecine à Toulouse il y a environ 200 ans. Je m'enquis autrefois à Adrianus Tunebus, qui savait toutes ces choses, que ce pouvait être de ce livre. Oh, il me répondit qu'il pensait que ce fut quelque quintessence tirée de saint Thomas d'Aquin. Car de vrai, cet esprit-là, plein d'une érudition infinie et d'une subtilité admirable, était seul capable de telles imaginations. Tant il y a que quiconque en soit l'auteur et inventeur, et ce n'est pas raison d'ôter sans plus grande occasion à ce monde ce titre, c'était un très suffisant homme ayant plusieurs belles parties. La première répréhension qu'on fait de son ouvrage, c'est que les chrétiens se font tort de vouloir appuyer leurs créances par des raisons humaines qui ne se conçoivent que par foi et par une inspiration particulière de la grâce divine. En cette objection, il semble qu'il y ait quelque zèle de piété. Et à cette cause, nous faut-il, avec autant plus de douceur et de respect, essayer de satisfaire à ceux qui la mettent en avant. Ce serait mieux la charge d'un homme versé en la théologie que de moi, qui n'y sais rien. Toutefois, je juge ainsi qu'à une chose si divine et si hautaine, et surpassant de si loin l'humaine intelligence, comme est cette vérité de laquelle il a plu à la bonté de Dieu nous éclairer, il est bien besoin qu'il nous prête encore son secours d'une faveur extraordinaire et privilégiée pour la pouvoir concevoir et loger en nous. Et il ne croit pas que les moyens purement humains en soient aucunement capables. Et s'il l'était, tant d'armes rares et excellentes et si abondamment garnies de forces naturelles est-ce siècles anciens, n'eussent pas failli par leur discours d'arriver à cette connaissance. C'est la foi seule qui embrasse vivement et certainement les hauts mystères de notre religion. Mais ce n'est pas à dire que ce ne soit une très belle et très louable entreprise d'accommoder encore au service de notre foi les outils naturels et humains que Dieu nous a donnés. Il ne faut pas douter que ce ne soit l'usage le plus honorable que nous leur saurions donner, et qu'il n'est occupation ni dessein plus digne d'un homme chrétien que de viser, par tous ses études et pansements, à embellir, étendre et amplifier la vérité de sa créance. Nous ne nous contentons point de servir Dieu d'esprit et d'âme, nous lui devons encore et rendons une révérence corporelle. Nous appliquons nos membres mêmes et nos mouvements et les choses externes à l'honorer. Il en faut faire de même et accompagner notre foi de toute la raison qui est en nous, mais toujours avec cette réservation de n'estimer pas que ce soit de nous qu'elle dépende ni que nos efforts et arguments puissent atteindre à une si supernaturelle et divine science. Si elle n'entre chez nous par une infusion extraordinaire, si elle y entre non seulement par discours, mais encore par moyens humains, elle n'y est pas en sa dignité ni en sa splendeur. Et certes, je crains pourtant que nous ne nous la jouissions que par cette voie. Si nous tenions à Dieu par l'entremise d'une foi vive, si nous tenions à Dieu par lui, non par nous, si nous avions un pied et un fondement divin, les occasions humaines n'auraient pas le pouvoir de nous ébranler comme elles ont. Notre fort ne serait pas pour se rendre à une si faible batterie. L'amour de la nouvelleté, la contrainte des princes, la bonne fortune d'un parti, le changement téméraire et fortuit de nos opinions n'auraient pas la force de secouer et altérer notre croyance. Nous ne la laisserions pas troubler à la merci d'un nouvel argument et à la persuasion, non pas de toute la rhétorique qui fut donc, et nous soutiendrions ces flots d'une fermeté inflexible et immobile. Illisos fluctus rupes ut vasta refundit, et varias circum latrantes dissipat undas molesua. Si ce rayon de la divinité nous touchait aucunement, il y paraîtrait partout. Non seulement nos paroles, mais encore nos opérations emporteraient la lueur et le lustre. Tout ce qui partirait de nous, on le verrait illuminé de cette noble clarté. Nous devrions avoir honte, qu'est-ce secte humaine? Il ne fut jamais partisan, quelque difficulté et étrangeté que maintint sa doctrine, qui n'y conforma aucunement ses départements et sa vie. Et une si divine et céleste institution ne marque les chrétiens que par la langue. Voulez-vous voir cela? Comparez nos mœurs à un mahométan, à un païen. Vous demeurez toujours au-dessous. Là où, au regard de l'avantage de notre religion, nous devrions luire en excellence d'une extrême et incomparable distance, et devrait-on dire, sont-ils si justes, si charitables, si bons? Ils sont donc chrétiens. Toutes autres apparences sont communes à toute religion. Espérance, confiance, événements, cérémonies, pénitences, martyrs. La marque péculière de notre vérité devrait être notre vertu, comme elle est aussi la plus céleste marque et la plus difficile. Et que c'est la plus digne production de la vérité. Pourtant, eut raison notre bon Saint Louis, quand ce roi tartare, qui s'était fait chrétien, désignait de venir à Lyon baiser les pieds au pape et y reconnaître la sanctimonie qu'il espérait trouver en Homère, de l'en détourner instamment, de peur qu'au contraire, notre débordée façon de vivre ne le dégoûtât d'une si sainte créance. Combien que depuis il advint tout diversement à cet autre, lequel étant allé à Rome pour même effet, y voyant la dissolution des prélats et peuples de ce temps-là, s'établit d'autant plus fort notre religion, considérant combien elle devait avoir de force et de divinité à maintenir sa dignité et sa splendeur parmi tant de corruptions et en mains si vicieuses. Si nous avions une seule goutte de foi, nous remuerions les montagnes de leur place, dit la Sainte Parole. Nos actions, qui seraient guidées et accompagnées de la divinité, ne seraient pas simplement humaines, elles auraient quelque chose de miraculeux comme notre croyance. Brevis est institutio vitae honestae beateque, si credas. Les uns font accroire au monde qu'ils croient ce qu'ils ne croient pas. Les autres, en plus grand nombre, se le font accroire à eux-mêmes, ne sachant pas pénétrer que c'est que croire. Nous trouvons étrange si aux guerres qui pressent à cette heure notre état, nous voyons flotter les événements et diversifier d'une manière commune et ordinaire. C'est que nous n'y apportons rien que le nôtre. La justice, qui étant l'un des partis, elle n'y est que pour ornement et couverture. Elle y est bien alléguée, mais elle n'y est ni reçue, ni logée, ni épousée. Elle y est comme en la bouche de l'avocat, non comme dans le cœur et affection de la partie. Dieu doit son secours extraordinaire à la foi et à la religion, non pas à nos passions. Les hommes y sont conducteurs et s'y servent de la religion. Ce devrait être tout le contraire. Sentez si ce n'est pas par nos mains que nous la menons. Attirer comme de cire tant de figures contraires d'une règle si droite et si ferme. Quand s'est-il vu mieux qu'en France en nos jours? Ceux qui l'ont prise à gauche, ceux qui l'ont prise à droite, ceux qui en disent le noir, ceux qui en disent le blanc, l'emploient si pareillement à leurs violentes et ambitieuses entreprises, s'y conduisent d'un progrès si conforme en débordement et injustice, qu'ils rendent douteux et malaisés à croire la diversité qu'ils prétendent de leurs opinions en chose de laquelle dépend la conduite et loi de notre vie. Peut-on voir partir de même école et discipline des mœurs plus unies, plus unes? Voyez l'horrible impudence de quoi nous pelotons les raisons divines, et combien irréligieusement nous les avons et rejetées et reprises selon que la fortune nous a changé de place en ces orages publics. Cette proposition si solemne, s'il est permis au sujet de se rebeller et armer contre son prince pour la défense de la religion. Souvienne-vous en quelle bouche, cette année passée, l'affirmative d'Issel était l'arc-boutant d'un parti, et la négative de quel autre parti c'était l'arc-boutant? Et oyez à présent de quel quartier vient la voix et instruction de l'une et de l'autre. Et si les armes bruient moins pour cette cause que pour celle-là. Et nous brûlons les gens qui disent qu'il faut faire souffrir à la vérité le joug de notre besoin. Et de combien fait la France, pis que de le dire? Confessons la vérité, qui trierait de l'armée même légitime ceux qui y marchent par le seul zèle d'une affection religieuse, et encore ceux qui regardent seulement la protection des lois de leur pays, ou service du prince, il n'en saurait bâtir une compagnie de gendarmes complète. D'où vient cela qu'il s'en trouve si peu, qui ayant maintenu même volonté et même progrès en nos mouvements politiques, et que nous les voyons tantôt n'aller que le pas, tantôt y courir à bride avalée, et mêmes hommes, tantôt gâter nos affaires par leur violence et âpreté, tantôt par leur froideur, mollesse et pesanteur, si ce n'est qu'ils y sont poussés par des considérations particulières et casuelles selon la diversité desquelles ils se remuent. Je vois cela évidemment que nous ne prêtons volontiers à la dévotion que les offices qui flattent nos passions. Il n'est point d'hostilité excellente comme la chrétienne. Notre zèle fait merveille quand il va secondant notre pente vers la haine, la cruauté, l'ambition, l'avarice, la détraction, la rébellion. À contrepoil, vers la vérité, la bénignité, la tempérance, si comme par miracle, quelque rare complexion ne l'y porte, il ne va ni de pied ni d'aile. Notre religion est faite pour extirper les vices. Elle les couvre, les nourrit, les incite. Il ne faut point faire barbe de foire à Dieu, comme on dit. Si nous le croyons, je ne dis pas par foi, mais d'une simple croyance. Voir, et je le dis à notre grande confusion, si nous le croyions et connaissions comme une autre histoire, comme l'un de nos compagnons, nous l'aimerions au-dessus de toutes autres choses pour l'infinie bonté et beauté qui reluit en lui. Au moins, marcherait-il en même rang de notre affection que les richesses, les plaisirs, la gloire et nos amis. Mais le meilleur de nous ne craint point de l'outrager comme il craint d'outrager son voisin, son parent, son maître. Est-il si simple entendement lequel ayant d'un côté l'objet d'un de nos vicieux plaisirs, et de l'autre en pareille connaissance et persuasion l'état d'une gloire immortelle, entra en bigue de l'un pour l'autre, et si nous y renonçons souvent de pur mépris? Car quelle envie nous attire au blasphémé, sinon à l'aventure l'envie même de l'offense? Le philosophe Antisthénès, comme on l'initiait au mystère d'Orpheus, le prêtre lui disant que ceux qui se vouaient à cette religion avaient à recevoir après leur mort des biens éternels et parfaits. « Mais pourquoi, si tu le crois, ne meurs-tu donc pas toi-même ? » lui fit-il. Diogène, plus brusquement selon sa mode, et plus loin de notre propos, au prêtre qui le prêchait de même, de se faire de son ordre pour parvenir au bien de l'autre monde. « Veux-tu pas que je croie que Gésilaus et Epaminondas, si grands hommes, seront misérables et que toi, qui n'es qu'un veau, qui ne fait rien qui vaille, seras bien heureux parce que tu es prêtre ?» Ces grandes promesses de la béatitude éternelle, si nous les recevions de pareille autorité qu'un discours philosophique, nous n'aurions pas la mort en telle horreur que nous avons. Non iam se moriens dissolvi conqueretur, sed magis ire foras, westem querelinquere, ut anguis gauderet praelonga senex aut cornua querus. Je veux être dissous, dirions-nous, et être avec Jésus-Christ. La force du discours de Platon de l'immortalité de l'âme poussa bien aucun de ses disciples à la mort pour jouir plus promptement des espérances qu'il leur donnait. Tout cela, c'est un signe très évident que nous ne recevons notre religion qu'à notre façon et par nos mains, et non autrement que comme les autres religions se reçoivent. Nous nous sommes rencontrés au pays où elle était en usage, où nous regardons son ancienneté, ou l'autorité des hommes qui l'ont maintenue, ou craignons les menaces qu'elle attache aux mécréants, ou suivons nos promesses, ses promesses. Ces considérations-là doivent être employées à notre créance, mais comme subsidiaires. Ce sont liaisons humaines. Une autre région, d'autres témoins, pareilles promesses et menaces, nous pourraient imprimer par même voie une créance contraire. Nous sommes chrétiens à même titre que nous sommes ou périgourdins ou allemands. Et ce que dit Platon, qu'il est peu d'hommes si fermes en l'athéisme qu'un danger pressant le ramène à la reconnaissance de la divine puissance. Ce rôle ne touche point un vrai chrétien. C'est affaire aux religions mortelles et humaines d'être reçues par une humaine conduite. Quelle foi doit-ce être que la lâcheté et la faiblesse de cœur plantent en nous et établissent? Plaisante foi, qui ne croit ce qu'elle croit que pour n'avoir le courage de le décroire. Une vicieuse passion comme celle de l'inconstance et de l'étonnement peut-elle faire en notre âme aucune production réglée? Ils établissent, dit-il, par la raison de leur jugement, que ce qui se récite des enfers et des peines futures est fin. Mais l'occasion de l'expérimenter s'offrant lorsque la vieillesse ou les maladies les approchent de leur mort, la terreur, dit-elle, les remplit d'une nouvelle créance par l'horreur de leurs conditions à venir. Et parce que telles impressions rendent les courages craintifs, il défend en ses lois toute instruction de telles menaces, et la persuasion que des dieux il puisse venir à l'homme aucun mal, sinon pour son plus grand bien quand il y échoit, et pour un médicinal effet. Il récite de Bion qu'un fec des athéistes de Théodorus. Il avait été longtemps se moquant des hommes religieux, mais la mort le surprenant, il se rendit aux plus extrêmes superstitions, comme si les dieux sautaient et se remettait selon l'affaire de Billon. Platon et ses exemples veulent conclure que nous sommes ramenés à la créance de Dieu ou par raison ou par force. L'athéisme étant une proposition comme dénaturée et monstrueuse, difficile aussi et malaisée d'établir en l'esprit humain pour l'insolent et déréglé qu'il puisse être, il s'en est venu assez par vanité et par fierté de concevoir des opinions non vulgaires et réformatrices du monde, en affecter la profession par contenance. Qui, s'ils sont assez folles, ne sont pas assez forts pour l'avoir planté en leur conscience. Pourtant, ils se lasseront de joindre leurs mains vers le ciel si vous leur attachez un bon coup d'épée en la poitrine. Et quand la crainte ou la maladie aura abattu et appesanti cette licencieuse ferveur d'humeur volage, ils ne laisseront pas de revenir et se laisser tout discrètement manier aux créances et exemples publics. Autre chose, c'est un dogme sérieusement digéré. Autre chose, ces impressions superficielles, lesquelles, nées de la débauche d'un esprit démanché, vont nageant témérairement et incertainement dans la fantaisie. Homme bien misérable et cervelé, qui tâche d'être pire qu'ils ne peuvent. L'erreur du paganisme et l'ignorance de notre sainte vérité laissa tomber cette grande âme, mais grande d'humaine grandeur seulement, encore en cet autre voisin abus que les enfants et les vieillards se trouvent plus susceptibles de leur religion, comme si elle naissait et tirait son crédit de notre imbécilité. Le nœud qui devrait attacher notre jugement et notre volonté, qui devrait estreindre notre âme et joindre à notre Créateur, ce devrait être un nœud prenant ses replis et ses forces, non pas de nos considérations, de nos raisons et passions, mais d'une astreinte divine et supernaturelle, n'ayant qu'une forme, un visage et un lustre, qui est l'autorité de Dieu et sa grâce. Or, notre cœur et notre âme, étant régis et commandés par la foi, c'est raison qu'elle tire au service de son dessein, toutes nos autres pièces sont dans leur portée. Aussi n'est-il pas croyable que toute cette machine n'ait quelque marque empreinte de la main de ce grand architecte et qu'il n'y ait quelque image et chose du monde rapportant aucunement à l'ouvrier qui les a bâtis et formés. Il a laissé en ses hauts ouvrages le caractère de sa divinité et ne tient qu'à notre imbécilité que nous ne le puissions découvrir. C'est ce qu'il nous dit lui-même, que ces opérations invisibles, il nous les manifeste par les visibles. Ce bonde s'est travaillé à ce digne étude et nous montre comment il n'est pièce du monde qui démente son facteur. Ce serait faire tort à la bonté divine si l'univers ne consentait à notre créance. Le ciel, la terre, les éléments, notre corps et notre âme, toutes choses y conspirent. Il n'est que de trouver le moyen de s'en servir. Elles nous instruisent si nous sommes capables d'entendre. Car ce monde est un temple très saint, dedans lequel l'homme est introduit pour y contempler des statues non ouvrées de mortelles mains, mais celles que la divine pensée a fait sensibles, le soleil, les étoiles, les eaux et la terre, pour nous représenter les intelligibles. Les choses invisibles de Dieu, dit saint Paul, apparaissent par la création du monde, considérant sa sapience éternelle et sa divinité par ses œuvres. Or, nos raisons et nos discours humains, c'est comme la matière lourde et stérile. La grâce de Dieu en est la forme, c'est elle qui y donne la façon et le prix. Tout ainsi que les actions vertueuses de Socrate et de Caton demeurent vaines et inutiles pour n'avoir eu leur fin et n'avoir regardé l'amour et obéissance du vrai Créateur de toutes choses et pour avoir ignoré Dieu. Ainsi est-il de nos imaginations et discours. Ils ont quelques corps, mais une masse informe, sans façon et sans jour, si la foi et grâce de Dieu n'y sont jointes. La foi venant atteindre et illustrer les arguments de ce monde, elle les rend fermes et solides. Ils sont capables de servir d'acheminement et de première guide à un apprenti pour le mettre à la voie de cette connaissance. Ils le façonnent aucunement et rendent capable de la grâce de Dieu par le moyen de laquelle se parfournit et se parfait après notre créance. Je sais un homme d'autorité nourri aux lettres qui m'a confessé avoir été ramené des erreurs de la mécréance par l'entremise des arguments de ce monde. Et quand on les dépouillera de cet ornement et du secours et approbation de la foi, et qu'on les prendra pour fantaisies pures humaines, pour en combattre ceux qui sont précipités aux épouvantables et horribles ténèbres de l'irreligion, ils se trouveront encore là, aussi solides et autant fermes que nuls autres de même condition qu'on leur puisse opposer. De façon que nous serons sur les termes de dire à nos partis « Si melius quid abes, acquerce ou l'imperium fer ». Qu'ils souffrent la force de nos preuves ou qu'ils nous en fassent voir ailleurs et sur quelque autre sujet de mieux tissé et mieux étoffé. Je me suis sans y penser à demi déjà engagé dans la seconde objection à laquelle j'avais proposé de répondre pour ce monde. Aucun disent que ces arguments sont faibles et ineptes à vérifier ce qu'il veut et entreprennent de les choquer aisément. Il faut secouer ceux-ci un peu plus rudement, car ils sont plus dangereux et plus malicieux que les premiers. On couche volontiers les dits d'autrui à la faveur des opinions qu'on a préjugées en soi. Un athéiste, tous écrits, tire à l'athéisme. Il infecte de son propre venin la matière innocente. Ceux-ci ont quelques préoccupations de jugement qui leur rend le goût fade aux raisons de ce monde. Au demeurant, il leur semble qu'on leur donne beau jeu de les mettre en liberté de combattre notre religion par les armes pures humaines, laquelle ils n'oseraient attaquer en sa majesté pleine d'autorité et de commandement. Le moyen que je prends pour rabattre cette frénésie, et qui me semble le plus propre, c'est de froisser et fouler aux pieds l'orgueil et l'humaine fierté, leur faire sentir l'inanité, la vanité et dénéantise de l'homme, leur arracher des poings les chétives armes de leur raison, leur faire baisser la tête et mordre la terre sous l'autorité et révérence de la majesté divine. C'est à elle seule qu'appartient la science et la sapience, elle seule qui peut estimer de soi quelque chose et à qui nous dérobons ce que nous coûtons et ce que nous prisons. Abattons ce quidé, premier fondement de la tyrannie du malin esprit. Deus superbis resistit willibus autem dat gratiam. L'intelligence est en tous les dieux, dit Platon, et point ou peu aux hommes. Or, c'est cependant beaucoup de consolation à l'homme chrétien de voir nos outils mortels et caduques si proprement assortis à notre foi sainte et divine, que lorsqu'on les emploie au sujet de leurs natures mortelles et caduques, ils n'y soient pas appropriés plus uniment ni avec plus de force. Voyons donc si l'homme a en sa puissance d'autres raisons plus fortes que celles de ce monde. Voir s'il est en lui d'arriver à aucune certitude par argument et par discours. Car saint Augustin, plaidant contre ces gens-ci, a occasion de reprocher leur injustice en ce qu'ils tiennent les parties de notre créance fausses que notre raison faut à établir. Et pour montrer qu'assez de choses peuvent être et avoir été, desquelles notre discours ne saurait fonder la nature et les causes, il leur met en avant certaines expériences connues et indubitables auxquelles l'homme confesse rien ne voir. Et cela fait-il, comme toutes autres choses, d'une curieuse et ingénieuse recherche. Il faut plus faire et leur apprendre que pour convaincre la faiblesse de leur raison, il n'est besoin d'aller triant des rares exemples, et qu'elle est si manque et si aveugle qu'il n'y a nulle si claire facilité qui lui soit assez claire. Que l'aisé et le malaisé lui sont un, que tout sujet également, et la nature en général, désavoue sa juridiction et entremise. Que nous prêche la vérité, quand elle nous prêche de fuir la mondaine philosophie, quand elle nous inculque si souvent que notre sagesse n'est que folie devant Dieu, que de toutes les vanités, la plus vaine, c'est l'homme, que l'homme qui présume de son savoir ne sait pas encore ce que c'est que savoir, et que l'homme qui n'est rien, s'il pense être autre quelque chose, se séduit soi-même et se trompe. Ces sentences du Saint-Esprit expriment si clairement et si vivement ce que je veux maintenir qu'il ne me faudrait aucune autre preuve contre des gens qui se rendraient avec toute submission et obéissance à son autorité. Mais ceux-ci veulent être fouettés à leurs propos dépens, et ne veulent souffrir qu'on combatte leur raison que par elle-même. Considérons donc pour cette heure l'homme seul, sans secours étranger, armé seulement de ses armes et dépourvu de la grâce et connaissance divine qui est tout son honneur, sa force et le fondement de son être. Voyons combien il a de tenue en ce bel équipage. Qu'il me fasse entendre, par l'effort de son discours, sur quel fondement il a bâti ses grands avantages qu'il pense avoir sur les autres créatures. Qui lui a persuadé que ce branle admirable de la voûte céleste, la lumière éternelle de ses flambeaux roulant si fièrement sur sa tête, les mouvements épouvantables de cette mer infinie, soit établi et se continue tant de siècles pour sa commodité et pour son service? Est-il possible de rien imaginer si ridicule que cette misérable et chétive créature, qui n'est pas seulement maîtresse de soi, exposée aux offenses de toutes choses, se dit maîtresse et empérière de l'univers, duquel il n'est pas en sa puissance de connaître la moindre partie, tant s'en faut de la commander? Et ce privilège qu'il s'attribue d'être seul en ce grand bâtiment, qui est la différence d'un reconnaître la beauté et les pièces, seul qui puisse en rendre grâce à l'architecte et tenir compte de la récepte et mise du monde, qui lui a scellé ce privilège, qu'il nous montre l'être de cette belle et grande charge? Ont-elles été octroyées en faveur des sages seulement? Elles ne touchent guère de gens. Les folles et les méchants sont-ils dignes de faveurs si extraordinaires, et étant la pire pièce du monde, d'être préférés à tout le reste? Et croirons-nous, c'est-tu-là, curum igitur causa qui dixerit effectum et semundum? I sundi et homines, quibus profecto nihil est melius, nous n'aurons jamais assez bafoué l'impudence de cet accouplage. Mais, pauvre, qu'a-t-il en soi digne d'un tel avantage? À considérer cette vie incorruptible des corps célestes, leur beauté, leur grandeur, leur agitation, continuée d'une si juste règle. À considérer la domination et puissance que ces corps-là ont non seulement sur nos vies et conditions de notre fortune, mais sur nos inclinations mêmes, nos discours, nos volontés, qu'ils régissent, poussent et agitent à la merci de leurs influences, selon que notre raison nous la prend et le trouve. À voir que non un homme seul, non un roi, mais les monarchies, les empires et tout ce bas monde se meut au branle des moindres mouvements célestes, si notre vertu, nos vices, notre suffisance et science, et ce même discours que nous faisons de la force des astres, et cette comparaison d'eux à nous, elle vient, comme juge notre raison, par leurs moyens et de leur faveur. Si nous tenons de la distribution du ciel cette part de raison que nous avons, comment nous pourra-t-elle égaler à lui? Comment soumettre à notre science son essence et ses conditions? Tout ce que nous voyons en ces corps-là nous étonne. Pourquoi les privons-nous, et d'âme, et de vie, et de discours? Y avons-nous reconnu quelque stupidité immobile et insensible, nous qui n'avons aucun commerce avec eux que d'obéissance? Dirons-nous que nous avons vu en nulle autre créature qu'en l'homme l'usage d'une âme raisonnable? Et quoi? Avons-nous vu quelque chose semblable au soleil? Laisse-t-il d'être parce que nous n'avons rien vu de semblable? Et ses mouvements d'être parce qu'il n'en est point de pareil? Si ce que nous n'avons pas vu n'est pas notre science est merveilleusement raccourcie, quoi est sunt tante animi angustiae? Songe pas des songes de l'humaine vanité de faire de la lune une terre céleste, y deviner des montagnes, des vallées comme Anaxagoras, y planter des habitations et demeures humaines et y dresser des colonies pour notre commodité comme fait Platon et Plutarque, et de notre terre en faire un astre éclairant et lumineux? Cae terra inter mortalitatis incommoda et occest calibomentium. La présomption est notre maladie naturelle et originelle. La plus calamiteuse et fragile de toutes les créatures, c'est l'homme, et quand la plus orgueilleuse. Elle se sent et se voit logée ici, parmi la bourbe et la fiente du monde, attachée et clouée à la pire, plus morte et croupie partie de l'univers, au dernier étage du logis et le plus éloigné de la voûte céleste, avec les animaux de la pire condition des trois, et se va plantant par imagination au-dessus du cercle de la lune et ramenant le ciel sous ses pieds. C'est par la vanité de cette même imagination qu'il s'égale à Dieu, qu'il s'attribue les conditions divines, qu'il se trie soi-même et sépare de la presse des autres créatures, taille les parts aux animaux ses confrères et compagnons, et leur distribue telle portion de faculté et de force que bon lui semble. Comment connaît-il, par l'effort de son intelligence, les branches internes et secrets des animaux? Par quelle comparaison d'eux à nous conclut-il la bêtise qu'il leur attribue? Quand je me joue à ma chatte, qui sait si elle passe son temps de moi plus que je ne fais d'elle? Nous nous entretenons de singeries réciproques. Si j'ai mon heure de commencer ou de refuser, aussi à elle la sienne. Platon, en sa peinture de la lâche fort dorée sous Saturne, compte entre les principaux avantages de l'homme, de l'or, la communication qu'il avait avec les bêtes, desquelles, s'enquérant et s'instruisant, il savait les vraies qualités et différences de chacune d'icelle, par où il acquérait une très parfaite intelligence et prudence, et en conduisait de bien loin plus heureusement sa vie que nous ne saurions faire. Nous faut-il meilleure preuve à juger l'imprudence humaine sur le fait des bêtes? Ce grand auteur a opiné quand la plupart de la forme corporelle que nature leur a donnée, elle a regardé seulement l'usage des prognostications qu'on en droit à son temps. Ce défaut qui empêche la communication d'entre elles et nous. Pourquoi n'est-il aussi bien à nous qu'à elles? C'est à deviner à qui est la faute de ne nous entendre point, car nous ne les entendons non plus qu'elles nous. Par cette même raison, elles nous peuvent estimer bêtes comme nous les estimons. Ce n'est pas grand merveille si nous ne les entendons pas. Aussi, ne faisons-nous les basques, les troglodytes? Toutefois, aucun se sont vantés de les entendre, comme Apollonius, Tianeus, Mélampus, Tirésias, Thalès et autres. Et puisqu'il est ainsi, comme disent les cosmographes, qu'il y a des nations qui reçoivent un chien pour leur roi, il faut bien qu'il donne certaines interprétations à sa voix et mouvement. Il nous faut remarquer la parité qui est entre nous. Nous avons quelque moyenne intelligence de leur sens, Aussi, on les mène des nôtres, environ à même mesure. Elles nous flattent, nous menacent et nous requièrent. Et nous, elles? Au demeurant, nous découvrons bien évidemment qu'entre elles, il y a une pleine et entière communication et qu'elles s'entre-entendent, non seulement celles de même espèce, mais aussi d'espèces diverses. En certain aboyer du chien, le cheval connaît qu'il y a de la colère. De certaines autres siennes voix, il ne s'effraie point. Aux bêtes même qui n'ont pas de voix par la société d'office, que nous voyons entre elles, nous argumentons aisément quelque autre moyen de communication. Leur mouvement discourt et traite. Pourquoi non? Tout aussi bien que nos muets disputent, argumentent et content des histoires par signes. J'en ai vu de si souples et formés à cela qu'à la vérité, il ne leur manquait rien à la perfection de se savoir faire entendre. Les amoureux se courroucent, se réconcilient, se prient, se remercient, s'assignent et disent enfin toutes choses des yeux. Quoi, des mains? Oh, nous requérons, nous promettons, appelons, congédions, menaçons, prions, supplions, nions, refusons, interrogeons, admirons, nombrons, confessons, repentons, craignons, vergognons, doutons, instruisons, commandons, incitons, encourageons, jurons, témoignons, accusons, condamnons, absolvons, injurions, méprisons, défions, despitons, flattons, applaudissons, bénissons, humilions, moquons, réconcilions, recommandons, exaltons, festoyons, réjouissons, complaignons, attristons, déconfortons, désespérons, étonnons, écrions, taisons. Et quoi non? D'une variation et multiplication à l'envi de la langue. De la tête, nous convions, renvoyons, avouons, désavouons, démentons, bienveillons, honorons, vénérons, dédaignons, demandons, esconduisons, égayons, lamentons, caressons, tensons, soumettons, bravons, exhortons, menaçons, assurons, enquérons. Quoi des sourcils, quoi des épaules? Il n'est mouvement qui ne parle, et un langage intelligible sans discipline, et un langage public. Qui fait, voyant la variété et usage distingués des autres, que celui-ci doit plutôt être jugé le propre de l'humaine nature. Je laisse à part ce que particulièrement la nécessité en apprend soudain à ceux qui en ont besoin, et les alphabets des doigts et grammaire en gestes, et les sciences qui ne s'exercent et ne s'expriment que par iceux, et les nations que Pline dit n'avoir point d'autre langue. Un ambassadeur de la ville d'Abdère, après avoir longuement parlé au roi Agis de Sparte, lui demanda « Eh bien, sire, quelle réponse veux-tu que je rapporte à nos concitoyens? Que je t'ai laissé dire tout ce que tu as voulu, et tant que tu as voulu, sans jamais dire mot. Voilà pas un fait particulier bien intelligible? Au reste, quelle sorte de notre suffisance ne reconnaissions-nous aux opérations des animaux? Est-il police réglée avec plus d'ordre, diversifiée à plus de charges et d'offices et plus constamment entretenue que celle des mouches à miel? Cette disposition d'action et de vacation si ordonnée, la pouvons-nous imaginer se conduire sans discours et sans prudence? Les hirondelles que nous voyons au retour du printemps furetaient tous les coins de nos maisons. Cherchent-elles sans jugement et choisissent-elles sans discrétion de mille places celle qui leur est la plus commode à se loger? Et en cette belle et admirable contexture de leurs bâtiments, les oiseaux peuvent-ils se servir plutôt d'une figure carrée que de la ronde, d'un angle obtus que dans l'angle droit, sans en savoir les conditions et les effets? Prennent-ils tantôt de l'eau, tantôt de l'argile, sans juger que la dureté s'amollit en l'humectant? Planchent-ils de mousse leur palais ou de duvet, sans prévoir que les membres tendres de leurs petits seront plus mollement et plus à l'aise? Se couvrent-ils du vent pluvieux et plantent l'horloge à l'Orient, sans connaître les conditions différentes de ces vents et considérer que l'un leur est plus salutaire que l'autre? Pourquoi espécie la rayée sa toile en un endroit et relâche en un autre? Se sert à cette heure de cette sorte de nœud, tantôt de celle-là, si elle n'a et délibération et pansement et conclusion? Nous reconnaissons assez en la plupart de leurs ouvrages combien les animaux ont d'excellence au-dessus de nous et combien notre art est faible à les imiter. Nous voyons toutefois aux nôtres, plus grossiers, les facultés que nous y employons et que notre âme s'y sert de toutes ses forces. Mais alors pourquoi n'en estimons-nous autant d'eux? Pourquoi attribuons-nous à je ne sais quelle inclination naturelle et servile les ouvrages qui surpassent tout ce que nous pouvons par nature et par art? En quoi, sans y penser, nous leur donnons un très grand avantage sur nous, de faire que nature, par une douceur maternelle, les accompagne et guide, comme par la main, à toutes les actions et commodités de leur vie, et qu'à nous, elle nous abandonne au hasard et à la fortune, et à quêter par art les choses nécessaires à notre conservation, et nous refuse, quand et quand, les moyens de pouvoir arriver par aucune institution et contention d'esprit à la suffisance naturelle des bêtes. De manière que leur stupidité brutale surpasse en toute commodité tout ce que peut notre divine intelligence. Vraiment, à ce compte, nous aurions bien raison de l'appeler une très injuste marâtre. Mais il n'en est rien. Notre police n'est pas si difforme et déréglée. Nature a embrassé universellement toutes ses créatures, et n'en est aucune qu'elle n'est bien pleinement fournie de tout moyen nécessaire à la conservation de son être. Car ces plaintes vulgaires que j'entends faire aux hommes, comme la licence de leurs opinions les élève tantôt au-dessus des nuées et puis les ravale aux antipodes, que nous sommes le seul animal abandonné, nu sur la terre nue, lié, garrotté, n'ayant de quoi s'armer et couvrir que de la dépouille d'autrui, là où toutes les autres créatures, nature les a revêtus de coquilles, de gousses, d'écorces, de poils, de laine, de pointes, de cuir, de bourre, de plumes, d'écailles, de toisons et de soie, selon le besoin de leur être. Les a armés de griffes, de dents, de cornes, pour assaillir et pour défendre, et les a elles-mêmes instruites à ce qui leur est propre, à nager, à courir, à voler, à chanter, là où l'homme ne sait ni cheminer, ni parler, ni manger, ni rien que pleurer sans apprentissage. Ces plaintes-là sont fausses. Il y en a la police du monde, une égalité plus grande et une relation plus uniforme. Notre peau est pourvue aussi suffisamment que la leur de fermeté contre les injures du temps, témoin plusieurs nations qui n'ont encore essayé nul usage de vêtements. Nos anciens Gaulois n'étaient guère vêtus. Ne sont pas les Irlandais et nos voisins sous un ciel si froid, mais nous le jugeons mieux par nous-mêmes, car tous les endroits de la personne qu'il nous plaît découvrir au vent et à l'air se trouvent propres à le souffrir. S'il y a partie en nous, faible et qui semble devoir craindre la froidure, ce devrait être l'estomac où se fait la digestion. Nos pères le portaient découvert, et nos dames, ainsi molles et délicates qu'elles sont, elles s'en vont tantôt entr'ouvertes jusqu'au nombril. Les liaisons et emmaillotements des enfants ne sont non plus nécessaires, et les mères lacédémoniennes élevaient leur leurre en toute liberté de mouvement de membres sans les attacher ni plier. Notre pleurer est commun à la plupart des autres animaux, et n'en est guère qu'on ne voit se plaindre et gémir longtemps après leur naissance. D'autant que c'est une contenance bien sortable à la faiblesse en quoi ils se sentent. Quant à l'usage du manger, il est en nous comme en eux, naturel et sans instruction. Qui fait doute qu'un enfant arrivé à la force de se nourrir ne sût quêter sa nourriture? Et la terre en produit et lui en offre assez pour sa nécessité, sans autre culture et artifice? Et sinon en tout temps, aussi ne fait-elle pas aux bêtes, témoin les provisions que nous voyons faire aux fourmis et autres, pour les saisons stériles de l'année? Ces nations que nous venons de découvrir, si abondamment fournies de viande et de breuvages naturels, sans soin et sans façon, nous viennent d'apprendre que le pain n'est pas notre seule nourriture, et que sans labourage, notre mère nature nous avait munis et plantés de tout ce qu'il nous fallait, voire, comme il est vraisemblable, plus pleinement et plus richement qu'elle ne fait à présent que nous y avons mêlé notre artifice. Le débordement et dérèglement de notre appétit devançant toutes les inventions que nous cherchons de l'assouvir. Quant aux armes, nous en avons plus de naturel que la plupart des autres animaux, plus de divers mouvements de membres, et en tirons plus de services, naturellement et sans leçon. Ceux qui sont enduits à combattre seuls et à combattre nus, on les voit se jeter au hasard, pareils aux nôtres. Si quelques bêtes nous surpassent en cet avantage, nous en surpassons plusieurs autres. Et l'industrie de fortifier le corps et le couvrir par moyens acquis, nous l'avons par un instinct et précepte naturel. Qu'il soit ainsi, l'éléphant aiguise et émeut ses dents, desquelles il se sert à la guerre, car il en a de particulières pour cet usage, lesquelles il épargne et ne les emploie aucunement à ses autres services. Quand les taureaux vont au combat, ils répandent et jettent la poussière alentour d'eux. Les sangliers affinent leur défense. Et l'ichneumon, quand il doit venir aux prises avec le crocodile, munit son corps, l'enduit et le croûte tout alentour de limons bien serrés et bien pétris comme d'une cuirasse. Pourquoi ne dirons-nous qu'il est aussi naturel de nous armer de bois et de fer? Quant au parler, il est certain que s'il n'est pas naturel, il n'est pas nécessaire. Toutefois, je crois qu'un enfant qu'on aurait nourri en pleine solitude, éloigné de tout commerce, qui serait un essai malaisé à faire, aurait quelque espèce de parole pour exprimer ses conceptions. Et n'est pas croyable que nature nous ait refusé ce moyen qu'elle a donné à plusieurs autres animaux. Car qu'est-ce autre chose que parler, cette faculté que nous leur voyons de se plaindre, de se réjouir, de s'entrappeler au secours, se convier à l'amour, comme ils font par l'usage de leur voix? Comment ne parlerait-elle entre elles? Elles parlent bien à nous et nous à elles. En combien de sortes parlons-nous à nos chiens et ils nous répondent? D'autres langages, d'autres appellations, devisons-nous avec eux qu'avec les oiseaux, avec les pourceaux, les bœufs, les chevaux, et changeons d'idiome selon l'espèce. Il me semble que Lactance attribue aux bêtes non le parler seulement, mais le rire encore. Et la différence de langage qui se voit entre nous, selon la différence des contrées, elle se trouve aussi aux animaux de même espèce. Aristote allègue à ce propos le chant d'hiver des perdrix, selon la situation des lieux. Mais cela est à savoir quel langage parlerait cet enfant. Et ce qui s'en dit par divination n'a pas beaucoup d'apparence. Si on m'allègue contre cette opinion que les sourds naturels ne parlent point, je réponds que ce n'est pas seulement pour n'avoir pu recevoir l'instruction de la parole par les oreilles, mais plutôt pour ce que le sens de l'ouïe, duquel ils sont privés, se rapporte à celui du parler, et se tiennent ensemble d'une couture naturelle. En façon que ce que nous parlons, il faut que nous le parlions premièrement à nous, et que nous le fassions sonner au-dedans, à nos oreilles, avant que de l'envoyer aux étrangers. J'ai dit tout ceci pour maintenir cette ressemblance qu'il y a aux choses humaines et pour nous ramener et joindre à la presse. Nous ne sommes ni au-dessus ni au-dessous du reste. Tout ce qui est sous le ciel, dit le sage, court une loi et fortune pareille. Il y a quelques différences, il y a des ordres et des regrets, mais c'est sous le visage d'une même nature. Il faut contraindre l'homme et le ranger dans les barrières de cette police. Le misérable n'a garde d'enjamber par effet au-delà. Il est entravé et engagé, il est assujetti de pareilles obligations que les autres créatures de son ordre et d'une condition fort moyenne, sans aucune prérogative, préexcellence vraie et essentielle. Celle qu'il se donne par opinion et par fantaisie n'a ni corps ni goût. Et s'il est ainsi, que lui sert de tous les animaux ? Et cette liberté de l'imagination et ce dérèglement de pensée, lui représentant ce qui est, ce qui n'est pas, et ce qu'il veut, le faux et le véritable, c'est un avantage qui lui est bien cher vendu et duquel il a bien peu à se glorifier. Car de là naît la source principale des maux qui le pressent, péché, maladie, irrésolution, trouble et désespoir.